On va lire deux textes, deux versets particulièrement, dans 1 Timothée chapitre 3 et le verset 15. En commençant par le verset 14 d'abord. 1 Timothée 3, 14. Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Le deuxième passage se trouve dans 1 Timothée 3, 15. Pardon. Non, dans 2 Timothée 3, 16, pardon. 2 Timothée 3, 16. Alors, je vais aussi lire le verset 14 pour l'inclure dans la lecture. « Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. » Je vais le relire parce que rien qu'en soi, en tant qu'étude biblique, ce ferait un message. Donc je le relis parce que chaque mot est pesé. L'apôtre dit « Toute écriture est inspirée. » Est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. Pour convaincre. Pour redresser. Pour éduquer dans la justice. Voyez-vous, l'ensemble de ces précisions ont chacune leur poids. Enseigner, convaincre, hein, ça veut dire qu'on a besoin d'être convaincu de quelque chose. Redresser, ça veut dire que quelque chose qui est courbé, qui a besoin d'être remis en droit, donc c'est utile à ça. Et éduquer dans la justice. Alors, toutes ces choses, on en a besoin en tant que chrétien. Parce que même si on est né de nouveau, on n'a pas toutes ces choses-là d'un seul coup. Hein. On a la capacité, on reçoit une capacité d'entrer dans ces choses-là. Mais ensuite, après, c'est toute notre vie chrétienne qui a besoin d'être enseignée, convaincue, redressée, éduquée. C'est notre vie nouvelle qui doit être au contact de la parole de Dieu pour que ces choses puissent fonctionner en nous. Afin que, donc le but c'est que l'homme soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Vous voyez, c'est l'équipement des saints, ça rejoint Éphésiens 4, 11, hein, ou les cinq ministères qui doivent nous équiper. Donc là, il est question des personnes, des dons que les personnes ont reçus, et là, il est question de l'équipement. Donc, c'est ça que les cinq ministères doivent utiliser, hein, et donc basé sur la parole, basé sur l'écriture, basé sur les écritures. Amen. Afin que nous soyons adaptés, parce que nous ne sommes pas adaptés au départ, hein, et ça, il faut bien en être convaincu, l'adaptation, elle n'est pas naturelle. Elle doit se faire. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure du ministère de la Maison d'Élie, qui est un outil, hein, donné par des gens qui ont reçu un don particulier. Nous avons rencontré personnellement les saints de Ford, qui ont vraiment reçu un don, à tel point que les plus grands ministères de la Terre, hein, sont passés par ses mains quand ils avaient des gros problèmes, et c'est lui qui les a aidés à les remettre sur pied. Vous demandez à John Lundness, qui va vous donner le témoignage de tous ces livres d'or où les gens ont passé entre les mains des saints de Ford. Afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Si nous voulons faire des œuvres bonnes, les œuvres selon Dieu. Nous avons besoin de tous ces équipements. Amen. Et tout est basé sur quoi? Sur l'Écriture. Alors, un petit détail, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas bien. Est-ce qu'on dit Écriture ou les Écritures? Quelle est la différence entre Écriture au singulier et Écriture au pluriel? Les Écritures ou l'Écriture? On utilise l'un ou l'autre, les deux sont vrais. Hein, mais voilà, donc toute Écriture, alors qu'est-ce qui est marqué là? Toute Écriture est inspirée, voilà. Hello, vous avez des avis? Écriture, c'est Dieu. Pardon? La parole, c'est Jésus. Oui. On voit qu'il y en a qui ont fait l'école biblique là. Ah bah oui, vous ne pouvez pas rivaliser avec des gens qui ont eu des enseignements. Oui. En fait, la Bible. Alors, c'est encore un autre mot. La Bible, ça veut dire quoi, Bible? Hein? La Bible. Quand vous dites Bible. Livre. Moi, je préfère bibliothèque. Mais bon, biblie et biblio, je pense que bibliothèque, c'est la même racine. Mais je préfère bibliothèque. C'est une bibliothèque d'écriture sainte. Hein? Bon, souvent, on met écriture sainte. Hein? Voilà. Sainte. Pour montrer que ce n'est pas des écritures païennes, ou des écritures profanes, ou des écritures laïques, des écritures saintes. Vous savez que c'est beaucoup utilisé, hein, surtout les catholiques, il faut parler d'écriture sainte. Voilà. Et c'est vrai que la notion de sacré, vu que c'est inspiré de Dieu, ce n'est pas n'importe quelle écriture. Donc, Bible, c'est une bibliothèque de combien de livres? Oui, mais il ne faut pas tout dire, là. Voilà, il faut laisser ruminer un peu là. Hein? 66 livres de. Alors, toutes les Bibles, toutes les bibliothèques n'ont pas les mêmes nombres de livres. À quoi je fais allusion? Pardon? Apocryphe, ça veut dire quoi, apocryphe? C'est aussi un nom bizarre, grec, hein, tout ça. Hein? Oui, qui n'est pas reconnu dans le canon. Alors, et un autre nom aussi, c'est le canon. C'est quoi le canon? Ça fait boum. On dépend toujours du grec et du latin, désolé. Canon? Non, c'est pas le centre. Voilà, ce qui est officiel, hein, officiellement reconnu, hein, canon, c'est l'Église qui a reconnu ça. Et en fait, il y a plusieurs canons, mais il y a un canon protestant et un canon catholique. Catholique et orthodoxe, enfin, les orthodoxes, je ne connais pas trop leur canon, mais il y a le canon, d'ailleurs, l'Église catholique parle du canon de l'Église. Hein. Et donc le canon, c'est les théologiens qui se sont rencontrés pour définir quels sont les livres qui sont reconnus comme inspirés, d'autres qui ne le sont pas inspirés. C'est-à-dire qui sont écrits, qui parlent de Dieu aussi, mais qui n'ont pas le caractère de l'inspiration divine. On a dit que toute écriture est inspirée. Hein, l'apôtre Pierre dit ça. Toute écriture est inspirée, à condition qu'elle soit dans le canon. Oui. Oui. Il disait, avant qu'il y ait bien que les textes. Oui. Avant, c'était toutes les livres catholiques. Ouais. Il disait que ces textes étaient là pour information, mais n'étaient pas inspirés. Oui. D'accord. Voilà. Donc, les livres, parce qu'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits, alors il y a en plus. Des lettres qui ne sont pas inspirées et d'autres qui sont des livres ésotériques, donc les évangiles apocryphes qui sont carrément ésotériques, qui ne sont pas du tout dans le canon catholique. Le canon, c'est des des théologiens, enfin des gens d'église, hein, qui sont reconnus et qui se sont réunis pour dire quels sont les textes, les écritures qui ont été inspirées de Dieu et celles qui ne le sont pas, et on les intègre dans la Bible, voilà, dans cette bibliothèque qui est canonisée, qui est imprimatur, comme quoi tout ça, c'est inspiré par Dieu. À quel moment le canon a été constitué? Pardon? Oui, oui, c'est toujours des conciles. Alors, c'est un peu compliqué, c'est pour ça qu'on fait parfois des expos Bibles, hein, un fait deux, et tout ça c'est expliqué sur les panneaux, hein, que peut-être vous avez oublié, mais vous pouvez toujours consulter tout ça sur l'association de, c'est pas l'Alliance évangélique, c'est l'Alliance biblique, voilà. L'Alliance biblique, c'est eux leur responsabilité de vous informer sur tout ce qui est de la Bible. En fait, il y a un premier canon qui a été fait par l'Église primitive dans le 2e, 3e siècle, par les Juifs. Parce que les Juifs aussi avaient tout un tas d'écrits qui n'étaient pas forcément inspirés. L'Ancien Testament, c'est les Juifs. Donc c'est eux qui devaient dire ça c'est inspiré, ça c'est pas inspiré, le livre d'Esdras, le livre de Daniel, le livre de Daniel avec 6 chapitres, d'autres avec 12 chapitres. Il y en a qui s'arrêtent au 6e, le 7e n'est pas inspiré. Vous voyez, tout ça c'est un travail de discernement spirituel. Et une fois, Michel, je lui ai lu un chapitre de Daniel, elle a dit c'est pas inspiré. J'ai dit, mais si, c'est dans la Bible. Ah ben, non, mais en fait, je lisais la Bible de Jérusalem. Et en fait, elle avait raison, parce qu'en fait, c'était un chapitre suivant qui n'était pas inspiré. Voilà. Et bon, elle l'a tout de suite remarqué. On a regardé, effectivement, la Bible protestante, c'était pas, ces chapitres-là, les trois chapitres suivants de Daniel, ne sont pas reconnus comme inspirés. Ouais. Alors, je ne rentre pas dans le détail pourquoi, il y a des explications, tout ça. Mais pour montrer qu'il y a eu un canon qui a été fait par l'Église primitive qui a reconnu l'Ancien Testament. Oui, donc il y a deux périodes, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc l'Ancien Testament a été défini par les Juifs, les rabbins, qui ont reconnu que dans l'Ancien Testament, il y a ces livres-là qui sont reconnus comme inspirés de Dieu et qui sont rentrés dans le canon protestant. Premièrement, c'est le canon dans les 3e, 4e siècle. Hein. Ensuite, après, au 16e siècle, 1517, c'est la thèse de Luther. Mais ensuite, après, il y a eu tout le travail de Luther, de Calvin et tout ça, qui ont décrit le canon protestant, qui a repris le canon juif pour l'Ancien Testament. Et le canon juif sur l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, il est à peu près le même que les catholiques, mais les catholiques, eux, n'ont pas reconnu forcément le canon juif. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils avaient des doctrines qu'il fallait justifier par des écrits apocryphes, voilà, qui n'étaient pas reconnus. Donc ils ont dû chercher d'autres livres qui justifiaient prière aux morts, etc., etc., voilà. Parce qu'ils n'étaient pas dans le canon officiel juif. Voyez. Bon, tout ça, c'est des apartés. Donc ça, c'est le canon protestant qui a pris le canon juif plus le Nouveau Testament. Et par contre, au XVIe siècle, il y a eu les catholiques qui ont fait la contre-réforme. Voyez, parce que comme il y a eu une réforme, il fallait la contrer. Eh bien, eux, ils ont défini aussi leur canon. Il n'était pas défini avant. Et justement, au concile de Trente, donc à Trente en Italie, hein, Trente, ou Trenta, je ne sais pas, concile de Trente, et ils ont défini le concile, ils ont défini le canon catholique en y incluant effectivement des écrits qui étaient considérés apocryphes par les juifs, par les rabbins, et qui ne sont pas dans la Bible protestante, parce qu'il fallait légitimer un certain nombre de thèses purgatoires, etc., qu'on peut trouver en cherchant bien dans ces récits. Je termine mon aparté pour revenir ici. Donc on a un canon avec la Bible. Donc il y a 66 livres, mais dans le canon catholique, il y en a plus. Je ne sais pas combien, 72 ou... 72, voilà. Vous voyez, 72, voilà. Mais nous, on suit les 66. Donc dans nos Bibles, on a 66 livres qui constitue le canon. L'écriture inspirée, qui est inspirée de Dieu. Donc, vous voyez, 66, c'est pluriel, donc ça fait un S. Mais il y a une Bible, donc ça fait sans S, plutôt. Hein. L'écriture, c'est un ensemble de livres. Vous lisez Genèse, Exode, etc. Donc, de la Genèse à l'Apocalypse, ça fait l'écriture sans S. Et les écritures, c'est les 66 livres qui sont tous différents, différents auteurs, différentes manières d'écrire, différentes manières de s'exprimer, différents contenus, etc. Oui. Donc ça veut dire la même chose, simplement en précisant mieux les choses. Ça va ? Donc toute écriture, ou toutes les écritures, est inspirée de Dieu, parce que Dieu a permis que ce travail de discernement spirituel soit fait. Aujourd'hui, alors c'est assez étonnant, moi, ça m'a un petit peu troublé un instant, mais bon, après, je me suis ressaisi. ça m'a troublé qu'en 1948, d'ailleurs, c'est la date de ma naissance, 1948, il y a eu deux découvertes qui ont été faites, pratiquement, peut-être 47-48, mais enfin, dans ces deux années, 47-48, il y a eu des découvertes qui ont été faites. Une découverte dans les grottes de Qumran. Qumran, c'est en Israël, hein, je ne sais plus, un petit peu en dessous de Jéricho, non, près de la mer Morte, au-dessus de la mer Morte, voilà. Donc à Qumran, il y a une découverte absolument incroyable qui a été faite, où un berger a perdu une chèvre, ou je ne sais pas, et il a lancé un caillou, et il a entendu qu'il y avait un bruit bizarre, et il a découvert des jarres. Et dans ces jarres, il y avait des rouleaux qui dataient de, je sais pas combien, avant Jésus-Christ, de 100, 300 ans avant Jésus-Christ, et où on a découvert des rouleaux entiers du livre d'Ésaïe et d'autres rouleaux hein, qui maintenant sont à Jérusalem dans le musée du livre, je crois. Bon, le musée de Jérusalem, musée du... Voilà, manuscrit de Qumran. Et ces manuscrits-là remontent avant Jésus-Christ et pratiquement... Je vous passe les détails. Mot pour mot, c'est le même texte d'Ésaïe qui a été redécouvert. Donc, vous voyez, il y a cette thèse de dire ouais, mais les écrivains ils se trompent. Effectivement, même moi, quand ceux qui sont à l'école qui écrivent une récitation, ils peuvent se tromper. Hein, c'est humain. Et donc, vous voyez, sur des milliers d'années, c'est normal qu'on peut se tromper. En fait, ils ne sont pas trompés du tout. Parce que bon, là, on rentre dans comment les manuscrits sont réécrits, et sont réécrits avec avec une rigueur absolument incroyable, mathématique, hein, pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans les copies, les copistes. Donc, vous voyez, un Qumran, c'est une découverte des écritures qui remontent à 200, 300 ans avant Jésus-Christ et qui attestent que le texte nous a été transmis exactement comme il a été écrit au temps d'Ésaïe. Fantastique. Et la deuxième endroit où il y a eu des découvertes, c'est alors ceux qui peuvent m'aider, j'ai un trou, je n'ai pas prévu. Oui, l'Égypte, mais je cherche le nom. Bon, ça me reviendra. En Égypte, il y a un nom d'un endroit aussi où on a découvert aussi des manuscrits. Mais ça, c'est des manuscrits apocryphes. Et en fait, ce sont des manuscrits gnostiques. Et des manuscrits gnostiques sont utilisés dans l'ésotérisme pour combattre en fait les textes inspirés et qui sont utilisés déjà à l'époque par les gens qui combattaient le christianisme et qui aujourd'hui aussi sont utilisés dans la magie, dans l'ésotérisme, etc. Je ne sais plus quel est le nom. Donc vous voyez, Dieu a permis de montrer d'une part la véracité des Écritures, qu'elles n'ont pas été falsifiées, mais en même temps qu'il y a aussi un combat pour falsifier les Écritures. Mais celles-là ne sont pas dans nos Bibles, hein, heureusement. L'évangile de Thomas, l'évangile de Marie, l'évangile, enfin, tous les Da Vinci Code, ils en parlent long, en large et en travers. Si vous voulez en connaître un peu plus, vous allez voir le film. Tout ça pour dire que toute Écriture est inspirée de Dieu et elle a un but. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui les chrétiens, et je m'en aperçois, hein, on en parle un peu dans formation de baptême, les chrétiens ne connaissent pas vraiment les Écritures ou l'Écriture. Et c'est très dommage parce que, vous voyez, nos pères et mères, hein, en particulier Huguenots, se sont battus, ont donné leur vie, ont donné leur sang pour simplement avoir un morceau d'écriture qui puisse, souvent ils les mettaient dans le chignon, ça s'appelle les Bibles à chignon, pour ceux qui ont vu, hein, les toutes petites Bibles qu'ils mettaient dans les chignons pour les cacher pendant qu'ils étaient fouillés et tout ça, pour garder ça en prison. Ils étaient heureux qu'en prison ils pouvaient lire la Bible. Et nous, la Bible, ben, voilà, les Écritures, voilà, on passe un peu dessus. Alors, on vit sa vie chrétienne, ok, d'accord. Mais, les amis, notre foi doit venir de tout ce qui est inspiré de Dieu. Parce que si on n'a pas la Bible, si on n'a pas la parole, si on n'a pas l'Écriture ou les Écritures, eh bien, les choses qui nous viennent, viennent de nous. Et si elles viennent de l'Esprit, ben, il faut discerner, est-ce que c'est tel esprit ou tel autre esprit ? Parce que tous les esprits nous influencent. Nous sommes dans un monde, non pas de bisounours, nous sommes dans un monde réel où les choses se passent autrement. Et là, il faut discerner. Est-ce que ce que je reçois, c'est inspiré de Dieu ou pas ? Et là, c'est l'Écriture. C'est les Écritures. Donc vraiment, je prie pour que notre assemblée, que vous, vous puissiez vraiment prendre à cœur de sonder les Écritures, de les sonder. Pas tout le temps les psaumes, hein, c'est bien de lire tout le temps les psaumes, de lire les psaumes, mais il y a autre chose que les psaumes. Hein. D'autres livres donnent des doctrines, et les doctrines, c'est la vérité. Et notre foi doit être basée sur la vérité. Vous avez vu tout à l'heure, on a lu ce passage, la maison de Dieu et l'église du Dieu vivant, la connole et l'appui de la vérité. Si l'église n'est pas l'appui de la vérité, elle n'est plus l'église. Elle va dévier vers le monde. Parce que nous sommes tous des êtres qui naissons et qui mourront. Un peu comme l'herbe des champs qui croît et qui s'en va, et qui fane. Et pendant cette durée, on a que quelques années, une centaine d'années, c'est rien par rapport aux milliers d'années de l'humanité, on n'a que quelques inférieurs à 100 ans pour nous préoccuper de ce que Dieu nous a dit, de messages qu'il veut nous passer. Est-ce que si nous aimons Dieu, si nous aimons Jésus, qui lui a tout le temps cité les Écritures, que ce soit devant les puissances, Satan lui-même, il citait les Écritures, parce qu'il les connaissait. Est-ce que nous voulons nous passer, excusez-moi l'expression, de cet exercice de sonder les Écritures ou pas ? Ça, c'est un challenge, c'est un défi. Et sachez que si nous ne le faisons pas, eh ben, c'est à notre détriment, c'est au détriment de notre foi. Parce qu'il y en a un autre qui, lui, nous envoie des messages, hein, en permanence, sur les radios, sur les ondes, sur les livres, sur partout, vous êtes inondés de plus en plus de messages qui vous influencent, bah, selon le prince de la puissance de l'air, hein, qui va influencer vos pensées, qui va conditionner vos actions en fonction de ce que vous aurez enregistré. Et sachez que ça ne va pas dans le bon sens, ça va de pire en pire. Et si vous ne connaissez pas les Écritures ou l'Écriture, eh bien, vous ne pourrez pas vous-même guider vos pas et discerner les choses, et encore moins vos enfants, qui ne vous écouteront pas si vous parlez de votre propre chef. Il faut parler de l'autorité supérieure, de Dieu. Mais pour aimer Dieu, eh ben, il faut aimer sa parole. Et Jésus l'a dit, il a dit « si ». Vous m'aimez, vous garderez ma parole. Et Jésus a toujours parlé des Écritures. Il n'a pas parlé de sa parole à lui. Il a parlé de ce que Dieu a inspiré à ceux qui l'ont précédé pour annoncer sa venue, pour annoncer son royaume. Et à chaque fois, il appuyait ce qu'il disait par les Écritures. Les Écritures disent. Vous, vous dites. Mais moi, je vous dis parce qu'il est écrit. Et lui connaissait l'esprit des Écritures. Alors, Je vais vous dire pourquoi aussi c'est important dans cette église de connaître les Écritures. Parce que nous avons trois projets. Okay, nous avons trois projets qui s'appellent EPEA. Et notre mission. Le premier projet, c'est quoi? Ou la première mission ici? Pardon? Non, ce n'est pas évangélisé. Je vois que vous ne l'avez toujours pas intégré, donc c'est bien. Je ne perds pas mon temps. C'est établir des communautés. Et pour établir des communautés, il faut la mission, et il faut le ministère, pardon, de la maison d'Élie. Le ministère de libération et de réconciliation. Le MLR, voilà, excusez-moi. Le projet, c'est le MLR. C'est pas le MLF, hein, c'est pas le MLF, c'est pas le MLH non plus, Libération des Hommes. C'est le ministère de libération et de réconciliation des cœurs, ou de restauration, de réconciliation, le R, vous pouvez le décliner à différents endroits. C'est en fait, nous ne pouvons pas établir des communautés sans méthode. On a parmi nous des consultants dans les entreprises et tout ça, voilà, et ils s'appuient sur des méthodes. Ils n'inventent pas parce que les méthodes sont issues de théories, sont issues de réflexions, etc. Mais là, c'est issu des Écritures qui sont inspirées de Dieu. Et quand on parlait tout à l'heure du ministère de la Maison d'Élie, c'est en fait un composé, le MLR, c'est un composé du TQP et du MME. Je ne me gêne pas pour utiliser ça, parce que quand vous parlez de politique, vous parlez de PS, de LR, de machin, même si on ne sait pas ce que c'est, bon, voilà, vous l'utilisez quand même. On a le droit aussi d'utiliser des termes de ce type-là. Après, il faut les expliquer. Le torrent qui purifie, c'est une réalité spirituelle qui existe depuis toute l'éternité et qui va couler dans toute l'éternité. C'est un fleuve qui sort du trône de Dieu et dans lequel qui est pour la guérison des nations. Et cette guérison des nations, elle est valable aujourd'hui et dans l'éternité. Parce que nous serons des créatures qui ont besoin tout le temps de guérison. Ce sera une guérison permanente, certes, où la mort et la maladie ne pourront plus nous atteindre, mais c'est parce que ce fleuve va couler de Dieu et qu'en tant que créature, on sera bénéficiaire de ça. Lisez l'Apocalypse, c'est écrit. Donc le torrent qui purifie est une réalité que nous voulons vivre aujourd'hui, que nous incarnons aujourd'hui, mais qui est simplement la traduction d'une réalité que Ézéchiel a vue, que Jean a vue, dans les Écritures respectives dont j'ai mentionné. Le MME, c'est le ministère de la Maison d'Élie, qui lui est également une sorte de permanence spirituelle qui est rappelée dans le dernier livre, du dernier chapitre, du dernier verset de Malachie. Après, Dieu s'est tu. Pendant 400 ans, jusqu'à la venue de Jésus. C'est intéressant. Et sachez que pendant les 400 ans où Dieu s'est tu, c'est les hommes qui ont parlé. Tous les philosophes. Socrate, Platon, machin, etc. Vous voyez, quand Dieu s'arrête, c'est les hommes qui parlent. Mais ce n'est pas la même chose. Réfléchissez au fait que Malachie, le dernier verset, Dieu parle d'une malédiction. Pas de bénédiction. La malédiction, c'est que l'esprit d'Élie, rappelez-vous que quand Jésus est apparu aux apôtres, il y avait Moïse, il y avait Élie. C'est les deux personnages qui sont apparus. Moïse, c'est la loi, et Élie, c'est celui qui rétablit toute chose. Celui qui a combattu l'esprit de Baal sur le mont Carmel. Élie, c'est celui qui a libéré Israël des puissances de l'ennemi spirituel. Et Élie, il vient régulièrement. Il y en a qui disaient à Jésus, mais toi tu es Élie. Jean-Baptiste, il est Élie. Ouais, parce que l'esprit d'Élie est toujours là pour restaurer, pour rétablir, pour réconcilier. Alors ? Et donc Élie, ce ministère d'Élie, justement, c'est les Sandford qui ont reçu cette mission de dire on veut établir la maison d'Élie. La maison, vous savez, c'est quelque chose qui abrite un ministère, la maison d'Élie, celui qui restaure les cœurs. restaure les cœurs entre les pères et les fils, entre les fils et les pères, qui restaure entre les l'intergénération, qui restaure les choses. Et on a besoin de ce ministère de restauration pour établir des communautés d'hommes libres et responsables, et qui sont engagés et qui ne vacillent pas devant les puissances de l'ennemi. Il faut avoir le ministère d'Élie. Voilà. Donc le ministère de la maison d'Élie, c'est donc, disons, si on n'avait que ça, on n'aurait pas besoin du TQP parce qu'il intègre déjà la délivrance, hein, le ministère de la maison d'Élie. Mais bon, je trouve que le torrent qui purifie est tellement bien fait que c'est bien de le garder comme base, qu'on mélange avec le ministère de la maison d'Élie. Mais ça, c'est une autre histoire. On verra ça dans 2-3 ans quand on aura fait la totalité de la formation pour voir quelle est la mixture qu'on va faire, voilà, quelque part, pour en faire qu'un seul. Parce que pédagogiquement, on aura des choses à apprendre. Donc, le MLR, c'est le ministère de libération, libération spirituelle, libération de nous libérer de tout le carcan que l'ennemi veut nous imposer, et le R pour réconciliation, restauration. Et là, ça nous amène au deuxième élément de notre mission, qui est ici, là, le P pour... prière, facile à retenir, un sandwich, la prière doit toujours être présente dans tout ce que nous faisons, toute notre mission, la prière. Et la prière, c'est le projet de Moving Glad, voilà, Moving Glad, qui veut dire move pour se mouvoir, dans la louange, l'adoration. Hein. Hello. Voilà, c'est un mouvement parce qu'on est vivant, hein, et on apporte un sacrifice vivant à Dieu, de mouvoir. Le ING, c'est pour intergénérationnel. Hein. Voilà, c'est que on se meut à, quand on est, on a un an, en adolescence, quand on est âgé, quand on est vieux, jusqu'à ce qu'on meure, plus mouvoir. Mais pendant tout ce temps-là, eh bien, intergénérationnellement, on est en train de se mouvoir dans la louange, l'adoration. Amen. Donc ça, c'est notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est de glorifier Dieu. Et dans le catéchisme de Westminster, il est marqué que le but de l'homme, c'est de glorifier Dieu. Amen. C'est ça le but. Et je suis frappé quand je vois un homme comme Jean-Sébastien Bach, qui est reconnu par tous le maître de la musique, qui sur toutes les partitions met Soli Deo Gloria, SDG, à Dieu seul soit la gloire. Il a dédié toute sa musique à Dieu. Et ce n'était pas un mot, c'est qu'il le vivait. Et nous deux, pardon ? Les paroles, les chorales, et ça, voilà. Et nous, toute notre vie devrait être un soli Deo Gloria. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Et là, nous avons réussi notre vie. Si nous sommes. Parce que nous allons glorifier le Seigneur dans l'éternité. Donc nous sommes prophétiques. Voyez-vous, une église prophétique, c'est une église qui vit en avance de phase sur ce qu'elle va vivre après et le vit déjà maintenant. Hello? Si vous voulez être une église prophétique, eh bien, le projet Moving Glad, dans lequel on commence simplement. Hein. Mais je vous signale que j'ai eu un coup de fil de Soda Pop hier, ou avant-hier, je ne sais plus, voilà. Et pendant 40 minutes, on a échangé tout ça. Il était content, tout ça. Il a dit, bah, écoute, je réserve pour vous le temps d'inauguration de la maison de prière, hein, qui aura lieu, voilà. Et on a déjà fixé des dates, enfin, parce qu'ils sont en Israël. Non, mais ils sont en Israël en septembre. Voilà. Donc normalement, ça sera fin octobre, début novembre. Bon, il m'a donné une latitude de choix. Là, il faut que je vois d'autres éléments qu'on va faire dans cette semaine d'inauguration pour toutes les églises, région parisienne et tout. Voilà. Donc je vous donne un peu un scoop, c'est que voilà, c'est eux qui seront les premiers à être là pour nous assister dans l'établissement de la maison de prière et dans le réseau d'établissement de maison de prière dans lequel nous voulons nous inscrire. Donc vous voyez, Moving Glad, c'est quelque chose absolument de capital. Troisième mission, C'est laquelle ? La troisième mission importante. La première mission, c'est établir des communautés. Alors, communauté, ça veut dire déjà un couple, c'est une communauté. Une famille, c'est une autre communauté. Et vous agrandissez, etc. L'église, c'est une communauté. Et d'autres églises, c'est des communautés. Hein. Donc, établir des communautés d'hommes libérés dans toute leur personnalité. Hein. Donc, on a besoin d'outils. Tout à fait. Et le A, c'est quoi ? Comme des ambassadeurs. On n'évangélise pas la mitraillette. Je connais des gens qui vont utiliser la mitraillette. Non, nous, on n'utilise pas la mitraillette pour évangéliser. On est ambassadeur. Voilà. Donc ça qualifie la manière d'être d'évangéliser. On évangélise comme des ambassadeurs. Ça veut dire que notre terrain n'est pas ici, notre maison n'est pas ici, elle est ailleurs. Mais nous sommes ici, dans le monde, mais pas du monde. Et là, nous avons besoin d'un autre outil. C'est quoi cet autre outil ? Là, parfois, je me dis, mais non, il ne faut pas que je leur dise ça, ils savent tout. Donc, voilà. Donc, je me rappelle que la répétition, je ne suis pas prof. Hein. Toute ma famille sont profs, mais moi, je n'ai jamais voulu être prof. Je veux être ingénieur pour à chaque fois créer des choses nouvelles. Ça, c'est ma vision. Donc, j'ai du mal à être prof, hein, pour répéter les choses. Mais je vois que c'est important. Donc, c'est quoi l'outil d'évangélisation comme ambassadeur ? Non, mais bon, vous ne le savez pas trop parce que je n'ai pas trop insisté, mais dans l'année qui vient, vous allez en entendre parler. C'est le ministère, ministère. C'est le ministère de Moving Land, ministère LR. Et là, c'est le ministère de Évangile 21. Oui. Alors, Évangile 21. C'est un mouvement qui a commencé en 1977, c'est facile à retenir. Olivier est né en 78, donc voilà, c'est dans ces eaux-là. 77. Il y a des gens qui sont réunis et qui, je vais en parler un petit peu de ça, mais qui maintenant ont débouché sur un mouvement. Alors, je vous invite à regarder Internet, pas tout de suite, hein, mais chez vous. Vous tapez E21. E21, c'est Évangile 21. Et vous allez tomber sur un site qui est le site le plus utilisé au monde, chez les évangéliques pratiquement, enfin le plus visité, qui a le plus de ressources. Et là, c'est des ressources de qualité. Je peux vous dire, les yeux fermés, consultez-le. J'aurais rien à dire sur ce qui est sur ce site-là. Donc c'est un site qui est, comment dirais-je, résilient. Hein, résilient à la fausse doctrine, donc il ne peut pas casser, parce qu'il a été conçu à partir du mouvement de Lausanne. Alors il faut remonter un petit peu avant, au mouvement de Lausanne. Alors celui qui va en parler, le mouvement de Lausanne, c'est M. Meyer, Franck Meyer, qui suit assidûment les rencontres du mouvement de Lausanne. Le mouvement de Lausanne, c'est en 1974, je crois, quelque chose comme ça. Ils se sont réunis avec Billy Graham, avec John Stott, avec John Stott, c'était en Angleterre, et je crois celui qui a écrit Narnia là. Je crois que c'est S. Lewis, bon, à vérifier. C'est des gens qui vraiment au niveau théologique étaient sur la parole, sur l'écriture. Voilà, on parle de l'écriture, c'est pour ça que je le cite, et qui ont fondé le mouvement de Lausanne, 1974, pour une nouvelle évangélisation. Vous savez combien Billy Graham a été utilisé dans les années 80, entre autres, pour cette évangélisation du monde. Et ce mouvement de Lausanne a dit, il y a un problème. On voit que de plus en plus, l'écriture ou les écritures sont négligées par les chrétiens, sont négligées par les églises. Elle est attaquée. Voilà. Et donc, ils ont décidé de consacrer 10 ans. Vous voyez, quand je vous dis c'est sérieux, c'est pas un an, hein, c'est 10 ans. C'est pour montrer la manière dont ils ont pris les choses. Ils ont dit on va se donner 10 ans, pour donc de 1977 à 1986, qui était la fin de ce projet. On va faire un projet avec les meilleurs spécialistes du monde entier qui se réunissent, qui ont travaillé pendant 10 ans. Et ils vont présenté à une assemblée générale qui s'est trouvée, je crois, à Chicago la première fois, enfin, je ne sais pas où, qui vont présenter leurs travaux. Et on va voir si on arrive à un consensus aujourd'hui, donc pratiquement 500 ans après la réforme, sur la même chose que les réformateurs ont fait à leur époque. Vous voyez, c'est un travail qui est une sorte de travail de réformation. Et donc, ils se sont donné ces objectifs-là. En disant, OK, Luther, Calvin et d'autres réformateurs, XVIe siècle, ils ont été agressés par la dérive par rapport aux Écritures, par l'Église catholique. Mais aujourd'hui, ils se sont aperçus qu'il y a une même dérive. À l'époque, la dérive, c'était bon, la religion, mais aussi la Renaissance. Renaissance culturelle qui nous apportait les Lumières. Vous savez que à Maastricht, ils ont voulu proposer une constitution européenne où il n'y avait que les Lumières qui étaient invoquées et pas le christianisme. Donc on voulait enterrer le christianisme définitivement, une fois pour toutes, paf. Le christianisme n'existe plus ni maintenant ni dans les racines. Vous voyez, et il n'y a que les Lumières, il n'y a que la raison. Voilà, c'est tout sur la raison. Et donc à l'époque, au XVIe siècle, c'était ça. Et Luther et Calvin se sont dit, attendez, la parole de Dieu, Dieu a parlé. Dieu nous a donné, nous a communiqué sa pensée, qu'est-ce qu'on en fait, hein? Est-ce qu'on la jette, hein? Ou est-ce qu'on relève le défi? Ça, c'est le XVIe siècle. Ben, au XXe siècle, c'était le même défi. Okay? Le même défi, est-ce que les évangéliques aujourd'hui, qui se réclament des Écritures, est-ce qu'ils veulent ou est-ce qu'ils ne veulent pas, eh bien, relever ce défi parce que l'écriture est malmenée. Et oui. Et donc, ça a donné lieu à Évangile 21. Aux États-Unis, ça s'appelle TGC. C'est The Gospel Coalition. C'est la coalition de l'Évangile. Quel est le rôle de l'Évangile dans tout ça? Et comment est-ce qu'on veut évangéliser? Donc, c'est pas des sites traduits, hein. C'est en France, il y a des gens qui se sont levés, hein, à l'époque et qui ont relevé le défi. Donc c'est pas des traductions de TGC, mais ce sont des partenariats entre TGC. Donc ici TGC, c'est des théologiens comme Carson et Timothy Keller qui ont créé ça aux États-Unis et ici. Henri Blocher, enfin tous des grands noms de gens qui sont basés sur les Écritures. Et donc, le ministère d'Évangile 21, je pense que c'est vraiment ça qui va nous ancrer dans l'Écriture, au niveau de notre évangélisation. Parce que si nous évangélisons en dehors des Écritures, je peux vous dire que le résultat, il est gagné d'avance. Nous n'allons pas amener les gens au Seigneur. Nous allons vous amener à un autre évangile. Donc il faut que l'évangile soit vraiment conforme aux Écritures. Donc ça, c'est un défi aussi, hein, qu'on va prendre en route pour que notre évangélisation puisse être basée sur les Écritures. Amen. Et je pense que là, le Seigneur m'a parlé, parce que j'ai dit, ça c'est au dernier... congrès de RNC quand j'étais à Hoche, que le Seigneur m'a parlé là-dessus. Il a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas en inter-église? Et est-ce qu'on le garde en interne? Vous voyez, ça, c'est en interne de l'EPEA, là aussi. Mais là, je pense que là, c'est important qu'on partage ça, parce que l'évangélisation, ça concerne toutes les églises. Et là, on peut dépasser, si vous voulez, les doctrines, voilà. Parce qu'on s'adresse à l'annonce de l'Évangile, l'annonce de la bonne nouvelle. On n'a pas besoin de rentrer dans les doctrines. On faut rester sur l'annonce de Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité. Et donc là, c'est aussi pour ça, on va voir des pasteurs de la région, et on va commencer cette semaine à les rencontrer pour leur dire, voilà, est-ce qu'on voudrait faire un lien d'association pour que l'évangélisation au XXIe siècle, on la fasse ensemble. Voyez, on la fasse ensemble parce que ça concerne le corps de Christ. Ça concerne l'évangélisation dans son ensemble de certain nombre de chrétiens qui peuvent dépasser les frontières de leur église locale. et qui peuvent travailler ensemble parce que nous voulons simplement annoncer que l'Évangile, que Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. Amen. Je reviens sur le texte précédent. On a lu que toute écriture est inspirée et que la maison de Dieu est basée sur c'est une colonne et l'appui de la vérité. La vérité, mes chers amis, doit être au cœur de notre défi d'évangélisation, de tout ce que nous faisons. Pourquoi ? Parce que vérité rime avec quoi ? Aujourd'hui, la vérité, hein, vous voyez, dans le monde politique, partout, on a du mal hein, avec la vérité. Mais vérité rime avec quel mot ? Vérité. Hein, c'est un signe mathématique, je crois, d'équivalence. C'est quoi l'équivalence de vérité ? C'est le mot qui se rapproche le plus de vérité. Pardon ? Alors c'est une réalité, hein. C'est un mot, mais c'est une réalité. La vérité, j'aimerais que ce matin, si vous ne vous rappelez plus que de ça, de mon message, que vous puissiez vous rappeler de ce mot. Liberté, non ? Pardon ? Réalité. Merci Jérôme. Liberté, vérité rime avec réalité. Une question. Est-ce que vous préférez vivre dans la réalité ou dans l'illusion ? Ah non, mais chacun ses choix. Hein. Non, non. Je ne méprise pas ceux qui veulent vivre dans l'illusion. Je peux vous dire même qu'il y en a qui ne peuvent pas vivre dans la réalité. Voilà, c'est trop douloureux. C'est pour ça qu'on a besoin aussi des autres ministères de guérison, de restauration. Parce qu'il y a une réalité. C'est pour ça qu'on veut les trois. On veut le ministère de restauration, on veut le ministère de prière, le ministère d'évangélisation. Mais le ministère d'évangélisation, qui toutes les trois sont basées sur la vérité, sinon on amène les gens dans l'illusion. Et quel est le père de l'illusion ? C'est Satan. Donc est-ce que nous voulons être du côté de Satan ou du côté de Dieu ? Toute la question est là. Toute la question est là. Aujourd'hui c'est qui gagne en ce moment dans le monde ? C'est Jésus ou c'est le diable ? C'est le diable. Nous ne voulons pas là. La réalité, c'est ça. La réalité, c'est ça. Parce que c'est le prince de ce monde. Et le prince de ce monde... Il est prince et il fait son boulot. Et si nous, on préfère l'illusion, ben on sera encore plus dans ses griffes. C'est le père de l'illusion. Le mensonge, est-ce que c'est une illusion ou c'est une réalité ? C'est une illusion. La preuve, c'est que moi, je m'aperçois que quand des chrétiens de l'Église, des chrétiens, je ne parle pas de l'extérieur, hein, je parle de notre famille, quand des chrétiens réalisent qui sont dans un mensonge, qu'ils ont cru un mensonge, et que d'un seul coup, ils réalisent, ben ils sont libres. C'est dommage ce matin que Charles Casadis ne soit pas là, mais c'est comme ça qu'il l'a expliqué. Quand il était là, et que vous avez tous fait le mouvement que Soda Pop a reçu du Seigneur pour sceller la prière, eh bien d'un seul coup, son esprit s'est ouvert en disant ben, « Je croyais à un mensonge. Je croyais que l'Église ne m'aimait pas. » Voyez-vous, c'est un mensonge, ça. Voilà. Pourtant, vous le voyez, et grand gaillard, machin, tout, vous ne voyez rien sur lui. Mais à l'intérieur de lui, il croyait à un mensonge. Et quand il a vu qu'il était l'objet d'un mensonge, paf, c'est immédiat, ça. C'est fantastique, ça. Vous voyez ? Sortir d'un mensonge, d'une illusion, pour entrer dans la vérité, ça vous libère. Comme ça, c'est magique. Ça, c'est la prise de l'ennemi. Et nous avons tous, dis à ton voisin, nous croyons tous à des mensonges. Nous croyons tous à des mensonges. Moi, je crois aussi à des mensonges. Mais oui, je crois, parce que nous sommes tous illusionnés. Tous. Celui qui dit non, il est dans le déni, c'est tout. C'est pas grave, hein. Mais tous les psychologues disent que ceux qui sont dans le déni ne peuvent pas être guéris. Pourquoi ? Parce qu'ils préfèrent avoir leur névrose, parce que leur névrose leur donne des avantages. Il y en a qui veulent rester dans les névroses ? Bon, alors, acceptons la vérité. La vérité, bien sûr, parfois, elle est difficile à recevoir, mais elle est libératrice. Élie a sorti les gens. Jean-Baptiste a sorti les gens de l'illusion en disant, vous, race de vipères, ne venez pas ici. Ce n'est pas pour vous, ça. Vous passez votre chemin, là. Mais ceux qui veulent vraiment se repentir, eh bien, ils rentrent et ils peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus a dit la même chose. Voyez-vous, tous ceux qui veulent être hypocrites, bon, ils ont le droit, hein. Chacun choisit son chemin. Mais ils seront dans l'illusion jusque dans l'éternité. Et l'éternité, c'est un monde d'illusion en permanence. L'enfer, c'est un monde d'illusion en permanence. Mes chers amis, soyez des hommes et des femmes de vérité. Si vous cherchez la vérité, vous la trouverez. C.S. Lewis était un de ceux qui étaient les plus rationnels qu'on puisse imaginer de son temps. Et par la logique, il a rencontré Dieu. On le rencontre n'importe comment, Dieu. Mais Dieu, c'est la vérité. Dieu, ce n'est pas l'illusion. Et Jésus disait, votre père, c'est le père du mensonge. Vous êtes dans l'illusion. Vous racontez n'importe quoi. Vous justifiez votre poste, vous justifiez votre pouvoir, vous justifiez tout ce que vous voulez, mais voilà, vous rentrez dans le mur. Okay ? Mais celui qui cherche la vérité le trouvera. Jésus, et l'autre fois avec Adèle, on en parlait, il ne le savait pas, mais quand il a vu ce centenier romain, qui, le centenier, ça veut dire qu'il dirigeait 100 hommes. Bon, 100 hommes, un capitaine, c'est 10, hein, vous voyez ? 100, c'est déjà plus qu'un capitaine, donc il devait être commandant, je ne sais pas ce que c'est, 100, je me fais l'armée. Donc, pardonnez-moi, je peux pas vous dire. Mais 100, c'est déjà plus que 10. C'est 10 fois 10. Bon, cet homme était centenier romain. Et quand il est venu à Jésus, il a dit, ma fille est malade. Il a dit, pas de problème, mais voilà, tu es pas juif et tout ça. Vous voyez, Jésus se permettait même de, pas d'humilier les gens, mais de les tester. C'est un test. Il a dit, non, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Dis juste un mot. Jésus a dit, waouh, j'ai jamais rencontré en Israël autant de foi. Vous n'avez pas besoin d'être juif, d'être n'importe quoi, simplement vous devez croire à la vérité. Et si vous croyez à la vérité, eh bien la vérité vous libère. Et vous libère, parce que c'est Dieu qui est derrière la vérité. Amen. Tous ceux qui sont des chercheurs de vérité, ils vont rencontrer Dieu. Ce n'est pas possible autrement. Je pense aussi à autre chose, mais ça vient de m'échapper. Concernant la vérité. Mais ça me revient. Donc la vérité est équivalente à la réalité. Et tout le monde entier, l'ennemi, et de plus en plus, s'arrange à mettre une confusion et à amener une illusion. Est-ce qu'il y en a qui ont suivi l'établissement de Macron ? Bah, allez voir la cassette. Allez voir la cassette. N'aurait jamais vu quelque chose d'aussi illusoire que ce qui s'est passé au Louvre. Regardez, je ne raconte pas de bêtises. On va dans un monde d'illusion. Ce monde d'illusion, c'est de faire croire que les choses vont changer alors qu'elles vont empirer. Voilà, c'est tout. Et tout le monde dit waouh. Ben oui, waouh. Une fois que c'est dit waouh, après, il faut payer, hein, il faut passer à la caisse. Hein. Parce que c'est plus du tout la réalité de ce qu'on vous a prévu. Okay. Avec Dieu, vous n'avez aucun souci. Parce que ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il accomplit. Avec Dieu, c'est la réalité. La réalité de quelqu'un qui est dans le vrai, c'est qu'il tient parole. Vous savez, les chrétiens, aux États-Unis, les Quakers, leur parole était tellement sûre que devant les tribunaux, ils n'avaient même pas besoin de jurer sur la Bible, on les croyait sur parole. Parce que c'était des hommes et des femmes qui se sont fait une réputation que quand ils disaient quelque chose, eh bien, ils l'accomplissaient. Aujourd'hui, ça suffit de taper dans les mains, même un contrat, les gens, ils le contournent, les contrats. Okay ? Il faut faire des contrats, d'assurance. Je l'ai vu avec ma fille, là. C'est fou, quoi. Vous prenez une assurance sur une assurance sur une assurance sur une assurance parce que personne n'est sûr que l'autre il tient sa parole, parce que dans le contrat, ah oui, mais ça c'était pas marqué, ah oui, c'était pas marqué, bah oui, mais monsieur, madame, voilà, vous ne pouvez pas être payé, même si vous avez une assurance. Vous voyez, on arrive à des sommets d'hypocrisie parce que chacun veut rouler l'autre. Voilà. Et ça, c'est le péché, c'est la nature humaine, parce qu'il est dans le péché. Mais quand nous sommes sauvés en Jésus-Christ, eh bien, nous devons être des hommes et des femmes de vérité. Et notre parole, elle doit être tenue. Et si elle n'est pas tenue, eh bien, plaçons-nous devant le Seigneur. Disons, Seigneur, aide-moi à être un homme, une femme de parole, de vérité. Alors ? Et ça va parler au monde, parce que ce sont des valeurs qui se perdent. Et là, vous pouvez réellement témoigner. Plus que de parler de Jésus-Christ, attire à l'arigot, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais là, quand vous êtes reconnu comme un homme, une femme de parole, eh bien ça, c'est comme ça que vous pouvez vous démarquer du monde. Allô ? Allô ? Un homme et une femme de parole. Parce que Dieu tient sa parole. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et que Dieu tient sa parole. Eh bien, nous, en tant que disciples, nous pourrons tenir notre parole à condition que nous soyons établis sur le roc. Si nous sommes dans l'illusion, nous ne pouvons pas. Nous sommes sous l'influence de l'esprit du monde. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Et tout le travail, je vais terminer là-dessus, du Conseil international de l'inhérence biblique, alors c'est un mot qui ne se trouve pas dans le dictionnaire, c'est un néologisme, inhérence. Non, inhérence. Je ne sais pas si c'est pas un A d'ailleurs, inhérence. Non, il n'y a pas de. Justement. Non, c'est un A, pardon. Je voulais mettre un A, voilà. Non, c'est pas un H. C'est pas inhérent. C'est pas inhérent. Et inhérent, c'est quelque chose, voilà, de. Comment on dit inhérent, évident ou c'est relatif, voilà, c'est inhérent à quelque chose. Non, c'est pas celui-là. C'est le Conseil international de l'inhérence. Comment ça s'appelait? De l'inhérence biblique. Voilà, biblique. Voilà. Alors, inhérence, ça veut dire de i-errance. Voilà, c'est sans erreur. Sans, in, un, vous voyez, incapacité, sans capacité, sans erreur. Errance, ça vient de, enfin, c'est lié à l'erreur. C'est sans erreur. L'inhérence biblique. C'est-à-dire que ce travail qui a été fait sur 10 ans par les plus grands spécialistes évangéliques de notre ère, qui sont encore en vie aujourd'hui, se sont réunis pendant 10 ans pour travailler d'arrache-pied, pour dire est-ce qu'on peut dire que la Bible est sans erreur. C'était ça l'objectif. Pourquoi ? Parce que même les chrétiens évangéliques ont été gagnés par le doute de dire il y a des erreurs dans la Bible. Est-ce qu'il y en a qui ont cru ça ou qui croient ça encore ? Soyez honnêtes, je sais que vous le croyez, et moi aussi je le crois. Mais si. Mais si, vous le croyez. Vous voyez, vous êtes tous dans le déni. Si. Non, non, vous ne le croyez pas. Enfin bon, je vous provoque. Hein. Je vous provoque. Je dis ça parce que c'est un, parce que si je vous donne des erreurs dans la Bible, je dis, ah oui, oui, mais ça, bon, il y a une erreur. Voilà. Ah, si vraiment vous êtes sans erreur, c'est que vous êtes des théologiens. Et je tire mon chapeau. Hein. Mais je peux vous dire que la Bible est truffée de choses qui vous interpellent. Qui vous interpellent. Ah oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui. Non, mais je suis provocateur parce que, effectivement, ils ont constaté ça, que dans les églises évangéliques, je ne parle plus évangélique, je ne parle pas des catholiques, etc., eh bien, les chrétiens ont commencé à douter de l'autorité de la parole et de ce que certaines erreurs, il fallait les accepter. Alors d'où ça vient ça? Ben, ça vient de l'histoire, entre autres le 19e siècle. 19e siècle, quand la science a pris de l'essor, la science a dit, bah oui, mais attends, Il faut prendre ce qu'il y a dans la Bible comme des mythes, par exemple. Et aujourd'hui, Michel peut témoigner que dans l'Église catholique, quand elle a eu des formations à la culture biblique, ils ont dit non, vous dites aux enfants que ça c'est un mythe, ça c'est un mythe. Voilà. Passage de la mer Rouge, c'est un mythe. Voilà. C'est-à-dire qu'on croit bien sûr au passage, mais c'est un mythe, vous voyez, c'est pas une réalité. Vous voyez. Donc l'erreur, c'est ça, si vous voulez, c'est de ne pas croire réellement que le passage de la mer Rouge, c'est une réalité. Non, oui, non, mais c'est ça l'erreur, attention. L'erreur, c'est pas de dire oh, oui, ça n'a pas existé. Ou l'erreur, c'est pas de dire c'est pas dans la Bible. L'erreur, c'est de croire autre chose que la réalité. Vous voyez, c'est pour ça que je viens de la réalité. Et quand on n'arrive pas à bien comprendre, on dit bah, c'est un mythe. Vous voyez. Et au XIXe siècle, les protestants, ils ont dit que Jésus n'est pas ressuscité. Oui, certains, les libéraux, okay, parce qu'il y a les libéraux. Ils ont affirmé que Jésus n'est pas ressuscité. C'est un mythe, c'est-à-dire, voilà, il faut y croire, voilà, c'est la religion. Donc, c'est du domaine de la religion, mais pas du domaine de la réalité, pas du domaine de l'histoire. Vous voyez, voilà. C'est pour ça que je dis l'erreur, c'est subtil. Et quand vous dites vous n'y croyez pas, je ne le crois pas parce que c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pénétrées dans la culture et qu'on croit. Et que on ne présente pas à ceux qui nous entourent, donc l'évangélisation, l'évangile, comme étant quelque chose. Parce que si aujourd'hui je vous dis que vous devez tout justifier de ce que vous dites, vous êtes mal, hein, parce que moi aussi je suis mal. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Et c'est pour ça qu'il faut creuser, savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Une erreur apparente devient une réalité quand on la comprend. Et au XIXe siècle, les évangéliques qui ont été agressés par ce libéralisme théologique, ils ont dit non, on ne peut pas accepter ça. Et c'est là qu'ils sont partis en Israël. C'est là qu'il y a eu tous les archéologues qui sont partis en Israël. Ils disent, mais attendez, on dit que c'est un mythe. Jéricho n'a pas existé, ceci n'a pas existé, ceci n'a pas existé, ceci, c'est un mythe, machin, etc. Et ils ont dû aller sur place pour fouiller, pour faire des creuser, machin, etc. Et trouver. Et c'est là qu'on a toute l'archéologie biblique. Qui a découvert des choses, des lieux. On a même découvert, tenez-vous bien, les Hittites. Les Hittites, tous les historiens, tous les disaient, sociologues disaient, ça n'existe pas. C'est la Bible qui invente. La Bible qui invente. Et dès que ça vient de la Bible, c'est pas crédible. Voilà. Donc, ils ont fait des fouilles, ils ont découvert que les Hittites, ça existait. Wow, c'est une découverte historique majeure dans l'histoire de la science. Et maintenant, c'est enseigné parce qu'ils ont découvert les Hittites. Parce qu'ils ont creusé. Et la science de l'archéologie a permis de prouver que la Bible dit vrai. Alors, voilà. Donc, vous voyez, c'est juste un exemple pour montrer que la Bible parle de réalité, d'histoire, de choses qui se sont passées vraiment à certaines époques et autres, etc. Et c'est ça qui est important pour nous, qui devons rentrer dans une compréhension, une assurance que ce qui est marqué dans la Bible, même si nous ne le comprenons pas, il ne faut pas mettre un voile dessus, il faut chercher. Parce qu'en cherchant, on va trouver. Et donc, du coup, on va être édifié. Oui ? Absolument. Je sais qu'il travaille même à des hologrammes qui, à des milliers d'altitudes, le monde entier pourra voir une personne en hologramme. Et ils l'ont fait pour la campagne présidentielle. Mais Mélenchon s'est fait prendre en hologramme. Donc vous voyez, on arrive à des choses qui, bien sûr, on disait, c'est pas possible. Merci Jérôme de parler du futur aussi. La réalité est quelque chose qui va nous dépasser. On va terminer là. Ce matin, je voudrais que on puisse prier parce qu'on est dans un monde de confusion. Dans un monde où l'ennemi veut endormir les chrétiens. Il veut vous endormir. Il veut vous hypnotiser. Et l'illusion hypnotise. Mais nous devons être des hommes et des femmes qu'ils sommes basés sur la vérité. Et la vérité, c'est la réalité. Et là, nous pourrons être crédibles. Parce que quand nous dirons à quelqu'un « ça, c'est vrai », la personne, elle va rencontrer le vrai, elle va dire oui, elle va rencontrer Dieu. Alors, moi, je suis reconnaissant, Seigneur, qui m'a placé dans l'industrie et pas dans l'administration. J'aurais jamais pu supporter ce que certains supportent, ceux qui travaillent dans l'administration. Ah oui, il y en a qui me comprennent. Parce que moi, j'ai jamais eu de problème dans l'industrie. Jamais. Parce que quand j'avais un ingénieur qui était plus haut placé ou ailleurs, etc., je savais qu'il allait se planter parce que la réalité allait le rencontrer. Parce que je savais qu'il ne répondait pas à certaines lois et je me mariais un peu, je priais, j'attendais et puis paf, il se plantait. Voilà, ok, le ballon était dégonflé. J'avais cette chance. Parce que quand on est dans les lois, parce que Dieu gouverne le monde par ses lois, et c'est ça qui est formidable, c'est que la réalité, elle emporte toujours. Sur l'illusion. Amen. Et dans l'église, c'est pareil. Quand je vois des chrétiens qui sont dans l'illusion, je prie, je dis, Seigneur, ouvre-leur les yeux. Comme Élie a dit à son serviteur, mais ouvre-lui les yeux. Là, les anges, là, c'est des réalités. Et c'est eux qui combattent pour nous. Et si on a la victoire, c'est parce que, s'il ne voit pas, ouvre-lui les yeux. Et ce matin, je dis, Seigneur, ouvre-nous les yeux, moi aussi. Ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les yeux pour voir ce qui se passe dans le monde évangélique. Je peux vous dire, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Si on ne fait pas attention. Maintenant, il faut simplement qu'on ait compassion et qu'on dise, Seigneur, aide-nous dans l'amour à redresser les choses qui ne sont pas dans la réalité. Amen. Et là, nous serons des témoins et que nous sommes responsables de notre frère. Nous sommes responsables de celui qui est à côté de nous. Mais faisons-le dans l'amour, dans la compassion, mais toujours dans la vérité. Amen. Seigneur, aide-nous dans ces temps que nous vivons, que nous puissions les accepter. Nous ne voulons pas vivre avant ou après notre génération. Mais Seigneur, dans notre génération, aide-nous à être appuyés sur cette vérité des Écritures. Et Seigneur, tes Écritures et l'Écriture qui véhicule, Seigneur, ta pensée éternelle, qui véhicule, Seigneur, ta parole, une parole vivante, c'est une parole qui s'accomplit aujourd'hui encore. Seigneur, que nous puissions être de ces hommes et de ces femmes qui voulons toujours, Seigneur, être appuyés sur la vérité. Afin que, Père, nous ne puissions pas dévier ni à droite ni à gauche, mais que nous puissions avancer dans ce monde troublé, et que nous puissions, Seigneur, être des instruments entre tes mains, équipés pour le service, équipés, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Et nous savons c'est ce que tu veux pour notre temps, pour notre génération. Et nous te prions pour les générations à venir aussi, qu'elles puissent se préparer à rentrer dans cette même dimension, que nous soyons des témoins pour cette génération qui vient. Seigneur, nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen.